Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission ce matin préparée par Marc Golloridon et Bertille Bourdon, mais aussi Rosalie Suc et Amélie Perrault, réalisée par Anna Holweg et mise en onde ce matin par Marie-Claire Oumabadi. Comme chaque vendredi et pour cette première table ronde d'actualité internationale de l'année 2020, nous allons nous intéresser à la Libye, une table ronde toujours en partenariat avec Le Monde. Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
La Libye, alors que le maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est du pays, a redonné un nouvel élan à son offensive militaire sur Tripoli, engagée en avril dernier, la Turquie vient d'autoriser une intervention militaire en appui à son rival Fayez el-Sarraj, à la tête d'un gouvernement d'union nationale. Cette initiative marque une nouvelle étape dans le processus d'internationalisation du conflit déjà bien engagé, alors quelles pourraient en être les conséquences? D'ailleurs, qui sont les acteurs régionaux et internationaux qui participent et avec quelle motivation? Pour évoquer ces questions, nous avons invité ce matin Jalel Archaoui. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur à l'Institut néerlandais des relations internationales de l'AE. Merci d'être avec nous. À nos côtés également, Ziad Majed. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes-vous enseignant à l'Université américaine de Paris? Vous connaissez en particulier la Syrie et ça tombe bien parce qu'on va essayer de dresser un parallèle entre les deux cas. On verra jusqu'où justement la comparaison fonctionne. Avant d'évoquer ce dossier libyen, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'association des prix Albert Londres. La journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient de RDC. C'est Sonia Rollet. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste à RFI, ancienne correspondante à Kinshasa. Vous étiez sur place cet automne et je crois que vous allez bientôt y retourner. Je rappelle pour les auditeurs, il y a bientôt un an maintenant, c'était le 24 janvier, Félix Tshisekedi succédait à Joseph Kabila à l'issue d'une élection qui a été repoussée à maintes et maintes reprises, dont l'issue d'ailleurs a surpris un certain nombre d'observateurs qui attendaient plutôt la victoire du dauphin officiel de Kabila. Par ailleurs, celui qui est arrivé second, Martin Fayoulou, continue de contester son résultat. On va en parler, on va essayer de regarder ce qui, en un an finalement, a changé ou pas du côté de la RDC. D'abord, sur Martin Fayoulou justement. Il se trouve que c'est lui qui aujourd'hui incarne l'opposition à Tshisekedi et cette semaine il a publié un long message à la nation, dans un long message vidéo de plus d'une demi-heure, dans lequel il réaffirme sa conviction qu'il a bien existé un deal entre Joseph Kabila d'un côté et Tshisekedi qui a permis à ce dernier d'être président, et appelant aussi à la rupture entre les deux hommes. D'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être la nature exacte de cet accord entre Kabila et Tshisekedi, et puis la réalité aujourd'hui de leur lien?
Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que Félix Tshisekedi est le fils de l'opposant historique. Donc de l'opposant historique qui était opposant à Joseph Kabila pendant des années, qui a dit non à Joseph Kabila pendant des années, même si on sait... Oui, même à Mobutu. Mais dont on sait que, certes, sur les dernières années de sa vie, il y avait des négociations entre son parti et Joseph Kabila autour de la gestion du pouvoir sur des équilibres qui étaient plutôt... Est-ce qu'il pourrait être Premier ministre ou des choses comme ça? En tout cas, c'est comme ça que le voyait Joseph Kabila. Et ce qui se trouve, c'est qu'il se trouve que cette élection donc a beaucoup surpris pour son résultat négatif, en tout cas à la présidentielle, pour le candidat du pouvoir, enfin le dauphin de Joseph Kabila. Et qu'il y avait une énorme pression, et notamment par des fuites de résultats et on a fait une enquête avec le Financial Times, qui montrait que c'était plutôt Martin Fayoulou qui était le vainqueur. Et à ce moment-là, on voit donc la commission électorale annoncer Félix Tshisekedi comme étant vainqueur. Donc forcément, ça a un peu surpris. Pendant tout un temps, la communauté internationale, d'ailleurs, ne savait pas quoi trop faire dans ce débat. Puis finalement, il y a eu vraiment un choix de la stabilité qui s'est fait, puisque si le parti d'opposition historique arrive à s'entendre avec le parti au pouvoir pour faire une grande coalition...
C'est pour le bien du pays.
Voilà, ouais. c'est pour le bien du pays.
Résumons.
En tout cas, on a vraiment vu ça comme ça. Et puis, il y a quand même l'idée, et on le sent dans la communauté diplomatique aujourd'hui encore, que Félix Tshisekedi peut... arriver à atténuer les effets du régime de Joseph Kabila, qui tient encore l'essentiel des institutions, c'est-à-dire Assemblée nationale, Sénat, Assemblée provinciale, gouvernorat, donc tous les services de sécurité, donc il tient à peu près tout, la Banque centrale, mais qu'il peut arriver à faire une impulsion.
Et donc, Kabila est aujourd'hui, un an après l'élection, toujours aux manettes du pays.
Il a la plupart des institutions sous son contrôle, enfin c'est sa coalition, enfin, c'est son... sachant que officiellement, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila font une coalition, donc ils négocient pour l'essentiel des décisions. D'ailleurs, au Congo maintenant, on appelle Joseph Kabila le président honoraire, c'est un poste qui n'existait pas auparavant, mais qui est un peu reconnu comme ça, où les gens finissent par utiliser cette expression, et on les voit, et encore à Noël, ils ont passé des heures ensemble à discuter. Il se trouve que c'est pas toujours facile d'arriver à un accord entre forcément le parti d'opposition historique et ce qui était avant le parti au pouvoir, que c'est difficile notamment à cause de la base, parce que la base a du mal à comprendre comment c'est possible d'arriver à se réconcilier comme ça, ou même à faire des affaires avec celui qu'on a détesté, où tout ce qui était dans le parti était Joseph Kabila dehors, Joseph Kabila est un Rwandais, enfin, il disait vraiment des choses qui étaient terribles, et des accusations personnelles contre le président. Ça a été dans une culture comme ça, et du jour au lendemain, on leur dit bon, ben maintenant on est au gouvernement avec lui, donc il va falloir accepter que.
Mais est-ce que ça veut dire, Sonia Rollet, que puisque c'est si difficile de comprendre ce lien entre les deux, est-ce que retournons la chose, on peut se dire que la rupture est impossible en réalité, que politiquement, Tshisekedi ne peut pas tenir sans Kabila.
Alors, il peut pas tenir les institutions, ça c'est sûr, parce qu'il faut quand même un fonctionnement normal des institutions. Pour travailler sur cette coalition, c'est compliqué. On a vu dans d'autres pays comme l'Angola juste à côté, où malgré le fait que l'ancienne famille au pouvoir, les Dos Santos, était encore très influent, on a eu un président qui a fini par prendre les rênes des services de sécurité, les directions en fait de tout, du parti et du reste. Là, on peut pas être vraiment dans ces circonstances-là parce que effectivement, la négociation est difficile et même on le voit sur des choses très simples. Mais par exemple, le Conseil supérieur de la magistrature a démissionné en septembre. Bon, normalement, le président, et ils ont laissé à la discrétion du président le fait de nommer un nouveau bureau, ce qui, quand on veut lutter contre la corruption, est quelque chose de très important. Là, on voit qu'il n'y a pas ces nominations-là, on voit qu'il n'y a pas les nominations dans la diplomatie, on voit que c'est compliqué, il n'y a pas eu vraiment de nomination dans les entreprises publiques. Donc il y a beaucoup de... Alors que le pouvoir de nomination du président, même s'il est contresigné d'une manière ou d'une autre, est très important, il ne prend pas cette place-là. En revanche, il va lancer après des réformes, comme ou arriver à obtenir un budget qui est très important, puisque c'est un budget de plus de 10 milliards.
Qui vient d'être voté hier.
Qui vient d'être même ratifié. Et même d'imposer la gratuité, par exemple, ça, il va le faire.
La gratuité à l'école.
La gratuité dans l'enseignement primaire, en essayant... c'est un peu de la méthode Coué, parce qu'il n'y a pas forcément toutes les mesures d'accompagnement. Il y avait vraiment tellement peu d'investissement de l'État. Donc là, ils ont fait un effort, effectivement. Ils payent beaucoup plus les enseignants, etc. Donc il y a quand même des choses comme ça qui se passent, qui sont quand même très intéressantes. Et puis après, il y a une image du pays qui a quand même changé, avec le fait que le FMI réenvisage de discuter quelque chose, que même ils font un peu des facilités de paiement pour des prêts, que la Banque mondiale a très envie d'investir, qu'il y a beaucoup de pays qui ont très envie d'investir au Congo et de revenir au Congo, puisque la présidence de Joseph Kabila... il était assez dur en affaires avec ses partenaires étrangers, quoi. C'était pas facile pour les États-Unis de toujours faire venir faire des affaires, même les Français, c'était pas vraiment facile et tout. Et tout le monde revient avec le grand sourire en disant, tout a changé, c'est le changement, on va pouvoir revenir et autres. Bien que le FMI demande quand même des efforts en termes de transparence des entreprises publiques, mécanisation ou de clarté en fait dans la chaîne de dépenses et surtout dans la chaîne de recettes, parce qu'on sait jamais ce qui rentre dans les caisses du Congo.
Et le pouvoir entend ça, parce que il y avait beaucoup de promesses dans la campagne de Tshisekedi, mais il y avait deux choses essentielles: la question de la gratuité à l'école primaire, vous en avez parlé, et la question évidemment de la corruption. Est-ce que, s'agissant de la corruption, le bilan de Tshisekedi un an après est notable, ou est-ce qu'il est nul?
Il y a eu beaucoup de scandales. Donc, il y a eu beaucoup de scandales qui ont fait beaucoup parler et où les gens étaient assez durs par rapport à l'époque Kabila, puisqu'il y avait des choses qui étaient des pratiques de l'époque de Kabila qui n'ont pas changé, où la société civile, on les a entendus à nouveau très fort et prendre vraiment une très grosse place en disant il ne faut pas que ça continue comme ça et autres. C'est difficile de changer les pratiques quand on ne change pas forcément les hommes. Et ça, c'est quand même un problème. C'est qu'il essaie de réformer, en fait, un personnel politique qui est habitué à un certain comportement. Ensuite, on a vu des dérives du côté de son camp également, avec des gens qui arrivent au pouvoir et qui, d'un seul coup, décident de prendre un hélicoptère pour faire quelque chose. Il y a eu quelques sanctions qui ont été prises. Et en tout cas, il y a un message régulier qui est de faire attention, qui est y compris relayé par le Premier ministre Sylvestre Ilunga, qui est du camp de Joseph Kabila. Ils savent que de toute façon, ils ont besoin de l'aide internationale, parce qu'il y a un moment où ça va être compliqué en fait, de tenir toutes les promesses sans aide internationale. Donc, ça reste encore un peu timide. On parle de créer une agence de lutte contre la corruption, mais il y a rien qui est fait pour renforcer, par exemple, la Cour des comptes ou l'Inspection générale des finances. Enfin, c'est vraiment un... Mais en tout cas, le discours est toujours là. Il y a quand même une pression qui reste là de la société civile, et un espace politique qui a été retrouvé et qui permet aujourd'hui, et avec quand même le risque quand même d'être sanctionné ou d'être un peu hué sur la place publique et que du coup, bah, le pouvoir se retrouve un peu obligé de donner des sanctions. On l'a vu dans la gestion d'hôpitaux publics ou parfois même de prisons où les gens ont commencé à hurler très fort et où d'un seul coup, on a dit bon, on va changer, on va changer la personne.
Non, mais donc ça veut dire qu'on peut hurler très fort.
On peut.
Est-ce que ça veut dire que un an après, le climat général est un peu plus apaisé ? Il y a par exemple un reportage très intéressant que vous avez fait, Sonia Rollet, sur ce collectif de d'humoristes, d'imitateurs, de sosies qui arpente les rues comme ça et qui imite les responsables politiques actuels mais aussi passés. Est-ce que l'existence de ce type de collectif est le signe que, oui, les choses se sont un peu apaisées en RDC et que finalement, peut-être, les atteintes aux droits de l'homme vont mieux que par le passé ?
Alors, en fait, les atteintes aux droits de l'homme, enfin, ça s'est un peu baissé pour les forces de sécurité. C'est-à-dire, on est revenu à 2015, avant 2015. Ouais. En 2015, il y a eu le début de la répression contre le troisième mandat ou ce qui semblait être le troisième mandat ou la volonté de faire un troisième mandat pour Joseph Kabila. Donc là, on a eu une grosse hausse de la répression, ça a dépassé les 50% de violations des droits de l'homme commises par les forces de sécurité. Là, on est légèrement au-dessous. On est en général vers 49, 46. C'est un peu les niveaux qu'on avait en 2015. Donc, Joseph Kabila était là. Là, ce qui a changé, c'est qu'il y a un peu moins de répression des droits de l'homme à caractère politique, mais il y a quand même des répressions. La Lucha en permanence se continue de se faire réprimer, qui est le mouvement citoyen de jeunes qui est né à Goma dans l'est du pays. Il continue très régulièrement de se faire réprimer un peu sur toute chose, parce que c'est les mêmes responsables des services de sécurité qui gèrent les mêmes forces de sécurité, donc c'est pas non plus facile de changer la culture du jour au lendemain. Et puis après que même le président Tshisekedi a dit bon, on peut pas faire n'importe quoi quand on manifeste. Voilà, moi je peux pas laisser dire n'importe. Enfin, il a eu des moments où il a eu lui aussi des discours qui étaient pas toujours complètement ouverts à tout. Mais dans l'ensemble, ça va mieux. Par contre, les autres violations, ça va pas mieux. Ça va un tout petit peu mieux pour les forces de sécurité. Il y a des sanctions qui sont parfois prises, mais il y a encore des grands crimes. Enfin, la plupart de l'impunité, en fait, qui sur les forces de sécurité perdure. Et notamment sur tout ce qui est sur le passé, où là on a carrément un président qui dit on va pas fouiner dans le passé.
Et là où ça va pas notamment, c'est aussi du côté du Nord Kivu. Et d'ailleurs dans son message à la Nation, Martin Fayoulou dénonce les massacres commis dans le Nord Kivu et notamment du côté de Beni. Il souligne la responsabilité des autorités. Il appelle à une grande marche qui aura lieu le 17 janvier prochain en hommage aux victimes. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, Sonia Rollet, la situation au Kivu et en particulier ces massacres à Beni et la responsabilité particulière des autorités actuelles dans un conflit qui aurait été dur depuis des décennies? Quelle responsabilité particulière depuis un an pour ce régime?
Alors, pour Beni, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que c'est massacre quasiment. Toutes les semaines, des petits massacres, des gros massacres. C'est vraiment une zone qui... Il n'y a pas eu tant de violence que ça, en fait, à Beni par rapport au reste du Nord Kivu ou de l'Est du Congo. C'est toujours été une zone où, en fait... Bon, un peu en autogestion par une communauté lénandais qui est très importante là-bas et qui était pas mal, par exemple, dans une institution comme l'Église catholique ou dans le système bancaire. Enfin, ils avaient vraiment une place particulière, en fait, un peu dans la société et ils arrivaient un peu à s'autogérer. Là, il se trouve qu'il y avait un moment où il y a un certain nombre des leaders de Beni qui sont passés dans l'opposition alors qu'ils étaient proches de Joseph Kabila. Ça a quand même changé quelque chose, on l'a vu sur le terrain. Et puis, il y a eu, au départ, des offensives militaires qui ont été faites contre un groupe rebelle ougandais ADF qu'on avait laissé tranquille globalement, voilà, qui était une espèce de secte islamiste de vraiment qui est très bizarre en fait, où on n'arrivait même pas à avoir de contact avec, on connaissait même pas vraiment les leaders, c'était très fermé et autres.
On sait ce qu'ils veulent
Ils veulent, en fait, ils vivent là. Pendant tout un temps, ils étaient assez dans les bons termes avec la population et même avec le régime. Enfin, à l'époque de Mobutu, on savait que bon, ça se passait plutôt bien avec les ADF et tout. Ils étaient d'ailleurs un peu convoyeurs de tout ce qui était or, etc. Et puis d'un seul coup, il y a eu volonté de mettre fin au groupe étranger. Et on a commencé par les ADF. Les opérations avaient été menées par un général qui a vraiment fait des opérations où il a réussi à convaincre la population de travailler avec lui pour se séparer des ADF. Donc ça avait assez bien marché. Et depuis... C'est le cauchemar. C'est-à-dire que depuis, régulièrement, il y a des opérations, mais les massacres ne s'arrêtent jamais, que toutes les attaques sont attribuées à ce groupe armé ADF, mais que très régulièrement, on dit qu'il est fini et mis par terre, et que même l'ONU nous dit c'est terminé, il y a pas, que ça, vraiment, on est dans un...
Mais alors, si les ADF sont par terre, qui commet les massacres?
C'est un peu ça, c'est que on n'arrive pas, parce que aussi c'est une communauté qui est assez fermée, à comprendre ce qui se passe à Beni dans le détail, que le parti pris qui est pris et aussi le problème général de l'Est du Congo, c'est que ces assaillants ont les uniformes de l'armée congolaise, les armes de l'armée congolaise, parce qu'à peu près tout le monde, il y a un embargo sur les armes pour les groupes armés, mais toutes les armes finalement c'est l'armée congolaise qui d'une manière ou d'une autre, ces armes circulent. que effectivement, en tout cas, la base ADF, les ADF étaient un groupe extrêmement fort, psychologiquement, militairement, très puissant. Ils sont capables de traverser une forêt comme ça, de pas manger, de pas... Enfin, ils sont connus pour être redoutables. Mais que au-delà de ça, il y a une mécanique de poursuite du conflit où on se rend compte qu'il y a aussi une partie qui ressemble à du règlement de compte, qu'il y a des règlements de compte politiques, il y a aussi des massacres qui sont très politiques, où c'est des messages qui nous paraissaient adressés à l'époque à Joseph Kabila. Donc depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi, il y a une volonté, il y a eu la volonté de dire on met plus de militaires sur place,
on a doublé leur nombre quand même.
Voilà, oui, mais
c'est important.
Le problème, c'est qu'en fait, ils annoncent des chiffres et qu'en fait, quand on voit les bataillons, il y a beaucoup de bataillons fantômes au Congo et en fait, les unités sont pas forcément remplacées et des bataillons ressemblent pas à des bataillons. Enfin, c'est quand ils disent 11 000, quand on voit la taille du territoire, moi je les vois pas les 11 000, je vois pas où est-ce qu'ils sont et je vois pas comment ils peuvent les mettre sur le territoire. Parce que effectivement, quoi, c'est beaucoup les unités qui sont opérationnelles et malheureusement les FRDC parfois ils ont des lourdes pertes et dans un coin comme Beni, dans des forêts comme ça où ils maîtrisaient mal le terrain et où c'est compliqué parce que on peut faire des jours de marche à l'intérieur de la forêt sans avoir de contact avec le reste, c'est vraiment très très compliqué. Ils ont eu des pertes énormes. Et il n'y a pas tellement d'unités que ça qui sont formées au combat. Il y a un problème, il y a eu un problème au Congo de réforme du secteur de la sécurité qui n'a jamais été faite. Et on ne voit pas, en tout cas, maintenant, à l'heure de Félix Tshisekedi, cette réforme de la secteur de la sécurité, sauf le fait qu'il ait dit et qu'il ait quand même commencé à faire une amélioration des conditions de vie des militaires, ce qui est très important pour avoir leur loyauté et pour qu'en fait, ils ne se retrouvent pas concrètement à faire des deals avec les groupes armés parce qu'ils ne veulent pas mourir pour être si peu payés, ce qui est quand même ce qui se passe aussi. Pour connaître que la vie d'un militaire congolais n'est pas facile.
Il faut ajouter une couche de complexité là-dessus, c'est qu'il y a les ADF, il y a évidemment les soldats congolais, mais il y a aussi les casques bleus. La MONUSCO, ça fait maintenant 20 ans, plus de 20 ans qu'elle est sur place. Elle est ici et visiblement, les populations locales s'interrogent beaucoup sur la posture des casques bleus vis-à-vis justement de ces groupes armés. Qu'est-ce qui se passe ?
Ouais, ben en fait, le problème, c'est qu'ils sont partenaires de l'armée congolaise, donc ils dépendent de l'armée congolaise pour tout. Et ça, c'est une chose qu'on oublie, mais c'est vrai qu'à partir du moment, en fait, c'est ce que m'expliquait parce que j'y suis plusieurs fois à Beni et j'ai discuté avec les patrons des casques bleus malawites et tout pour leur dire mais quand même là votre base elle était là, le massacre s'est passé là et les gars expliquent les choses très simplement, ils disent tout simplement ces militaires que ils sont partenaires de l'armée congolaise, si les militaires congolais ne sortent pas ils peuvent pas sortir, enfin ils ont besoin en fait d'une coordination avec l'armée congolaise pour sortir. Ils ne veulent pas sortir, se retrouver face à des gens qui sont en tenue de l'armée congolaise et ne pas pouvoir tirer dessus parce qu'ils pensent que c'est peut-être l'armée congolaise qui est en train de commettre des exactions. C'est pas complètement impossible. C'est arrivé par exemple à ce... je pense à ça parce que le bataillon Alaouite a été victime de ça, où un jour ils sont sortis parce qu'il y avait une attaque sur une base de l'armée congolaise, ils arrivent dans la base, ils se présentent face aux gens, ils se font tirer dessus les premières personnes qui rentrent dans la base parce que les gens qui étaient là, qui étaient parfaitement en uniforme, n'étaient pas des militaires congolais. Et ça, c'est quand même un problème général. Et tant que ce problème-là ne sera pas vraiment réglé, en fait, du partenariat avec l'armée et d'arriver à avoir une bonne coordination entre les deux, ça sera toujours difficile. Et l'autre chose,
c'est savoir... Et est-ce qu'on peut espérer une évolution du côté de Tshisekedi sur ce point-là?
En fait, il n'a pas changé les responsables des services de sécurité, donc ça met toujours l'ONU, même si elle ne peut pas le dire, dans une difficulté particulière, c'est qu'ils ont commis des violations des droits de l'homme qui sont documentées par l'ONU, et qu'en théorie, on ne peut pas apporter un soutien, ou ils ne peuvent pas apporter un soutien. Donc c'est, dans les faits, on dit tout va bien, ça se passe très bien, on a une bonne collaboration, on avance, et c'est vrai qu'il y a quand même un peu plus d'efforts de coordination, mais ça reste encore... pas toujours simple, ils demandent pas toujours l'aide de l'ONU en fait pour faire les choses. Et puis après, c'est quand même des attaques qui se passent en périphérie des champs et autres. C'est vrai qu'il faudrait patrouiller, c'est vrai qu'il faudrait faire une analyse un peu de la manière dont les tueurs se comportent. Mais si vous regardez, et c'est ça je pense qui complètement horrifie la société civile comme toute la population à Beni, c'est que les attaques se passent systématiquement aux mêmes endroits. C'est sur 5 ans, ça veut dire que vous avez pu être massacré 10 fois sur une même localité, quoi. Ça paraît aberrant. Ça paraît, évidemment, si on rajoute Ebola là-dessus, c'est...
ce que j'allais vous dire, il faut rajouter dans le décor Ebola qui continue de s'étendre. Enfin d'ailleurs, qui continue, on ne sait pas très bien parce que...
C'est chaque fois qu'il y a un cas, ça relance un peu l'épidémie parce qu'il suffit d'un cas pour finalement relancer une épidémie. Donc chaque fois qu'il redécouvre un cas ou qu'il y a des, cas suspects, ça relance pour autant de jours, 21, 42...
En tout cas, officiellement, 2000 morts depuis l'été 2018.
C'est moins que la rougeole et c'est moins que la plupart des épidémies des au Congo, mais c'est la plus connue. Mais il y a plus d'épidémies, en fait, même dans le Nord Kivu, qui font plus de morts qu'Ebola.
Et des équipes de vaccination qui sont prises pour cible.
Ouais.
Merci beaucoup Sonia Rollet d'être passée dans nos studios. Je rappelle que vous êtes journaliste à RFI, l'ancienne correspondante à Kinshasa. J'avais imaginé, mais j'étais quand même bien optimiste, qu'on pourrait évoquer aussi la question de la gestion des déchets de Kinshasa. Vous avez réalisé un très bon documentaire sur ce sujet-là, donc j'invite les auditeurs à aller sur le site de RFI, à la réécouter, Kinshasa, les rivières de déchets. Très facile de retrouver ça sur Internet, on le mettra d'ailleurs sur la page de Culture Monde. Merci beaucoup Sonia Rollet.
Lusala mbothe zeno kwa digale sasa yaya Lusala nzame ni kwa niwa kumbaka yaye Lusale, Lusala, Lusale
Voilà, on quitte l'RDC avec Relema, avec ce titre Loussala, qui est un titre congolais évidemment. On va se tourner du côté de la Libye et se demander si la Libye est la nouvelle Syrie.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Alors que plusieurs pays étaient déjà plus ou moins directement engagés dans le conflit en Libye, le président turc a décidé de s'y engager encore plus afin de soutenir le gouvernement d'union nationale du Premier ministre Fayez al-Sarraj, retranché à Tripoli, qui depuis avril dernier maintenant fait l'objet d'une offensive militaire lancée par son rival et homme fort de l'Est, le maréchal Haftar.
La Turquie a signé un accord maritime avec la Libye ainsi qu'un accord de coopération militaire. J'espère que ces accords vont être approuvés par notre Parlement aux alentours des 7 et 8 janvier. Ainsi, nous pourrons accepter la demande des Libyens d'envoyer nos troupes. C'est la raison de toutes ces réunions. Certains aident un seigneur de guerre. Nous, nous soutenons le gouvernement légitime d'un pays et acceptons leur appel à l'aide. C'est toute la différence.
Voilà, et cette demande, elle a été validée hier par le Parlement turc. À l'issue de cette intervention du président turc, l'émissaire de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, a exprimé ses inquiétudes dans les colonnes du Monde, d'ailleurs, qui s'inquiétait, Ghassan Salamé, de la nette escalade du conflit, soulignant les risques liés à ces ingérences étrangères dans la région. On va parler justement de ces ingérences étrangères. On va regarder quels sont les risques de cette initiative turque. On va essayer de comprendre les motivations d'Ankara, mais aussi des autres pays qui sont directement impliqués dans ce conflit. Pour ce faire, nous avons invité Jalel Archaoui, qui est chercheur à l'Institut néerlandais des relations internationales de l'AE, et Ziad Majed, qui est enseignant à l'Université américaine de Paris, qui est un spécialiste de la Syrie. On va pouvoir voir justement jusqu'où est-ce que les deux situations sont comparables. On est avec vous, Marc Semo, notre partenaire du Monde. Marc, évidemment, cette nouvelle étape dans l'internationalisation du conflit en Libye, qui était déjà engagée, mais là, c'est encore une nouvelle étape qui est franchie. C'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui espéraient peut-être une issue politique à ce conflit.
C'est une mauvaise nouvelle, c'est inquiétant. Mais ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Libye, c'est un désastre géopolitique majeur aux portes de l'Europe, et dont les conséquences sur l'Europe pourraient être bien pires encore que celles de la Syrie. La Libye est en effet devenue le théâtre de l'affrontement entre les deux grandes forces qui s'opposent aujourd'hui dans le monde sunnite. D'un côté, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, les salafistes, en général, pour résumer, et de l'autre, aux côtés donc du gouvernement d'union nationale, qui reste la seule autorité internationalement reconnue, il y a le Qatar et surtout la Turquie, donc qui vient de passer cet accord pour l'envoi de troupes. Alors, aussi, des grands acteurs non régionaux interviennent, dont la Russie, qui envoyait des mercenaires aux côtés du général Haftar. Alors, ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, l'ONU est paralysée. Il n'y a pas eu une seule résolution sur la Libye, bloquée par les Russes, mais les Français ont été plus qu'ambigus, parce que les Français ont soutenu au début Haftar, aujourd'hui moins, mais il garde ses relations, tout en disant formellement soutenir le gouvernement d'Alliance nationale. Donc l'Europe est paralysée. Et aujourd'hui, le risque est que, de plus en plus, comme en Syrie, la solution du conflit soit dans une espèce de condominium entre la Russie et la Turquie, les deux acteurs majeurs qui à la fois s'opposent et peuvent comme au nord de la Syrie, trouver un accord.
Voilà, donc le décor est posé. Jalal Arshaoui, si je me fais l'avocat de Erdogan, je ne suis pas sûr qu'il en ait besoin, mais allons-y quand même. Au fond, Erdogan il propose un appui, à la demande d'ailleurs des autorités d'Al-Farage, à un gouvernement qui a été reconnu par les Nations Unies. Est-ce que finalement, il n'est pas cohérent cet homme-là? Est-ce que finalement, le vrai problème, ce n'est pas celui des Occidentaux, qui à la fois reconnaissent le gouvernement d'Union Nationale, mais sont incapables de lui apporter un véritable appui, puisque en réalité, ils appuient son rival Haftar?
Je dirais pas qu'il est forcément cohérent ou légitime. Je pense qu'il a repéré une incohérence absolument béante dans ce qu'il perçoit comme étant les institutions occidentales pour ces pays-là. Vous savez, le Conseil de sécurité de l'ONU est plutôt un héritage américain, occidental. Il a vu donc la paralysie et le dysfonctionnement que vous soulignez tout à l'heure, et il s'est engouffré dans cet espace qui avait été laissé complètement vulnérable en raison avant tout de la complaisance des Occidentaux. Parce que depuis le mois d'avril, il y a justement un refus assez délibéré de venir mettre des obstacles, par exemple à l'intervention militaire des Émirats Arabes Unis, qui a commencé avec ses drones et depuis le mois de juin avec des avions de chasse, c'est-à-dire y compris des pilotes et tout ça. Et dans les capitales occidentales, il y a un souci de ne surtout pas dire que l'empereur est nu et de ne pas parler de cette intervention militaire. Alors, ce qu'a fait Erdogan, il a constater qu'il y avait une utilisation absolument grossière de l'espace clandestin dans lequel il était présent. Il ne faut pas se leurrer. La Turquie a été très active avec ses propres drones pendant plusieurs mois en 2019, on peut en parler. Mais ce qu'il a envahi, c'est surtout l'espace officiel qui avait été complètement déserté par les institutions occidentales.
Et là, on voit le parallèle assez clair, Ziad Majed, avec la Syrie. Au fond, la Turquie s'est engouffrée dans l'espace laissé vide des Occidentaux. Là, il y a un parallèle qui est très clair.
Oui, il y a certainement un parallèle, sauf que dans le cas syrien, la Turquie est concernée directement, territorialement. Il y a l'obsession kurde chez les Turcs, donc c'est plutôt aussi une question que Erdogan gère comme étant bien reliée à ce qui se passe en Turquie même par rapport aux Kurdes et leur autonomie qui a eu lieu en Syrie à partir de 2014 avec l'aide des Occidentaux.
Même si ça peut se discuter, Ziad Majed, parce qu'il y a bien aussi une question territoriale, mais en Méditerranée, autour de gisements gaziers.
Alors, donc, ce qui fait que là, on passe à autre chose. C'est-à-dire, il y a à la fois ce qui a été dit sur un affrontement entre les Émirats Arabes Unis et la Turquie. D'ailleurs, c'était une des plus grandes guerres de drones entre les deux. Il y a l'Égypte de Sissi, qui est dans le camp des Émirats, l'Arabie Saoudite derrière, et puis il y a surtout la Russie, qui envoie des mercenaires. Je souhaite peut-être ajouter qu'entre l'Italie et la France aussi, il y a une très grande rivalité qui se joue en Libye, qui est à la fois liée au pétrole, au gaz, mais également au soutien que chacun apporte à un des deux camps. Et puis la Turquie maintenant profite de tout cela. Oui, il y a une volonté turque de jouer un rôle régional important. Ils imitent un peu les Iraniens dans leurs interventions dans d'autres territoires. Il y a la question de la Méditerranée et une riposte turque aussi à l'axe qui se crée entre Israël, Chypre et la Grèce. On a vu hier, là, ou avant-hier, l'accord qui a été signé. Donc il y a plusieurs questions régionales et internationales qui s'invitent à la scène libyenne, mais il faut rappeler aussi que les interventions en Libye ont commencé depuis 2014,
évidemment,
par les Émirats et surtout.
On reviendra, je précise pour les auditeurs, on va faire le tour justement des différents acteurs qui sont en place pour voir la réalité de leur présence et leur motivation des uns et des autres, et je vous demanderai peut-être de garder un tout petit peu de côté la France parce qu'on va l'évoquer à un moment. Marc Sémot.
Oui, il y a cette opposition au sein du camp sunnite, mais il y a un facteur qu'il y a en Syrie qui est fondamental et qu'il n'y a pas en Libye, qui est le facteur iranien, le facteur chiite, qui est de fait aujourd'hui le conflit majeur au sein du monde musulman, et ça, en Libye, il n'existe pas. L'Iran est, alors bon, c'est vrai que c'est pas le Moyen-Orient, là on est déjà vers le Maghreb, mais l'Iran est totalement absent apparemment de la crise libyenne.
Oui, tout à fait. L'Iran est absent. Et là, je pense qu'il faut modifier un peu aussi les logiciels qui ont souvent parlé uniquement de conflits sunnites chiites dans la région. On voit que dans le nord d'Afrique, cette question ne se pose pas. Il y a d'autres enjeux. Et même la question du conflit sunnite chiite est mise en doute aujourd'hui en Irak, où on voit que ce sont surtout les citoyens chiites irakiens qui se soulèvent contre l'hégémonie iranienne, entre guillemets, chiite. Donc certainement, ce paramètre n'est pas du tout à l'ordre du jour en Libye et en Égypte aussi.
Jalal Harchaoui, si on regarde celui qui fait l'actualité du moment, c'est-à-dire l'acteur turc, il y a donc hier le Parlement qui valide justement cette ambition, cette volonté d'intervenir du côté de la Libye à la demande des autorités de Tripoli. Il faut se souvenir que Fayez al-Sarraj est allé à Istanbul, c'était à la fin du mois de novembre je crois, et qu'on avait déjà pré-signé un certain nombre d'accords, deux en l'occurrence. Qu'est-ce qu'on s'était dit à l'époque? Quels sont les accords sur lesquels les textes sur lesquels on s'est accordé entre la Turquie et Farage, et qu'est-ce qu'on peut attendre de cette intervention turque? Qu'est-ce qu'il va y avoir très concrètement? Qu'est-ce qu'on va déployer sur place?
D'accord, donc deux choses. Le grand élément nouveau, c'est celui qui est apparu justement le 27 novembre. C'est un accord maritime sur lequel les Turcs insistent beaucoup depuis octobre 2018, donc ce n'est pas nouveau. Et le gouvernement internationalement reconnu de Tripoli, il savait bien que le signer, ça consistait à s'automutiler au niveau de la diplomatie vis-à-vis de l'Occident. Il voulait surtout pas le faire. En revanche, depuis l'arrivée des Russes début septembre, justement, ce gouvernement s'est retrouvé beaucoup plus inquiet par rapport à sa propre survie et est devenu désespéré. Et les Turcs ont su exploiter ce moment de faiblesse extrême pour extraire la signature que les Libyens ne voulaient surtout pas accorder aux Turcs. Mais ils ont réussi, les Turcs sont malins, et à partir du moment où ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, c'était pas de l'argent, c'était cet accord maritime, et on peut discuter de comment ils comptent l'utiliser, eh bien ils ont donné en échange un accord de défense. Et cet accord de défense est officiel. Et ce qui est très important de comprendre dans toute cette dynamique-là, c'est que la composante la plus importante de l'intervention militaire turque, ce n'est pas la composante officielle. Celle-là, elle est faite pour distraire les Occidentaux, pour faire peur aux États du Golfe, pour faire un show. La chose la plus importante, c'est l'intervention clandestine, qui a repris dès le début décembre. Il y a à nouveau des drones qui ont été envoyés. Ils ont beaucoup de mal à les faire voler parce que maintenant, il y a les systèmes de brouillage des Russes, il y a toujours les Émiratis avec leurs drones et leurs avions de chasse. Je continue à insister là-dessus.
Il y a les miliciens syriens qui seraient envoyés par Ankara.
Là non plus, les Libyens ne les ont jamais demandé, ne les ont jamais souhaité. Ça, c'est du show, encore une fois. Et le spécialiste de la Syrie d'aujourd'hui, Ziad, va pouvoir nous expliquer pourquoi Erdogan a tout intérêt à diminuer l'effet d'humiliation à Idlib en distrayant son auditoire syrien. Non, ce que les Libyens veulent véritablement, ce sont des munitions, ce sont des armes. Les cargaisons d'armes ont repris début décembre à la suite de cet accord du 27 novembre. Ils voudraient avoir leur propre système de brouillage, etc. Et ils n'ont jamais demandé des mercenaires syriens. Ils ont suffisamment de combattants. Misrata peut...
Mais Ankara en a envoyé.
A envoyé par égoïsme pur et à des fins politiques. Donc il y a un élément de show business, si vous voulez, de spectacle, qu'il est absolument important d'isoler et de séparer de la véritable aide militaire que les Libyens demandent et sont en train d'obtenir aujourd'hui.
Vous pouvez nous éclairer sur ce côté show-off, parce que moi j'avais précisément compris qu'on n'avait pas fait trop de bruit autour de ça. On parle de vols un peu clandestins, pas complètement officiels, de miliciens syriens qui auraient été envoyés par Ankara, via d'ailleurs des aéroports turcs du côté de la Libye. Vous pouvez nous aider à comprendre, Yann Majan?
Alors, il n'y a pas beaucoup d'informations sur les chiffres, sur les nombres, mais je suis tout à fait d'accord que c'est une volonté turque de montrer que même si à Idlib, il y a une humiliation, disons, ou bien un recul net des forces que soutiennent Ankara face aux Russes et au régime syrien, il y a une autre scène, il y a un autre enjeu, et que Ankara reste l'acteur régional important, incontournable. Donc il y a eu des discussions et des négociations, comme il y a eu des déclarations que certains des combattants de l'armée que Ankara a réorganisé, d'opposants syriens, va se battre en Libye. Sauf que plusieurs déclarations d'officiers de cette armée-là ont condamné la question. Beaucoup de responsables de l'opposition syrienne ont considéré que se transformer en mercenaires n'a rien de glorieux. Donc il y a une résistance syrienne à cette décision turque. Est-ce qu'on sait qu'il y a quelques combattants syriens qui ont la nationalité turque, qui ont été naturalisés durant les dernières années, ou bien qui sont des régiments turcs syriennes qui ont été mobilisés sans savoir s'ils ont déjà été envoyés en Libye, s'ils sont importants ou pas. Mais tout à fait d'accord, la question n'est pas du tout la question de fournir des ressources humaines dans ce combat. Il y a beaucoup de combattants du côté du gouvernement Louis Farc, de Sarraj, il y a les brigades de Misrata, il n'y a pas ce problème-là. Il y a un problème d'équipement militaire sophistiqué, surtout après l'arrivée des Russes et après l'intensification de l'aide militaire émiratie et de Sisi à Haftar ces derniers mois. Donc ce qu'ils veulent, c'est une couverture aérienne, ce qu'ils veulent, c'est un équipement militaire beaucoup plus que de combattants.
Et c'est ce que va lui apporter, c'est ce que va lui apporter Erdogan.
Probablement.
Avec difficulté. Il y a une difficulté technique que les Turcs rencontrent. C'est pas facile de faire ils n'arrivent pas à faire décoller leurs drones parce qu'ils sont systématiquement abattus, soit par les Émiratis.
Oui, les Émiratis. On reviendra sur les Émiratis parce que vous leur conférez une place très particulière, Jalal Arshawi. Marc Semo.
Alors, justement, je voudrais quand même en revenir au gouvernement d'Alliance nationale. Mais est-ce que ce n'est pas une forme de suicide diplomatique? C'est-à-dire, jusqu'ici, ce gouvernement de Faïd Sarraj avait un soutien international, même si concrètement il ne se concrétisait pas beaucoup. Aujourd'hui, avec cette espèce d'alignement sur la Turquie, d'accord, sur le gaz qu'il leur donne pour la Méditerranée orientale qui change toute la donne dans la région, avec cette reprise des livraisons d'armes et des troupes, est-ce que, d'une certaine façon, cela ne fragilise pas terriblement Sarraj, qui jusqu'ici, malgré tout, était quand même, entre guillemets, celui qui avait le droit pour lui?
Bah, vous avez tout à fait raison de poser cette question-là. Est-ce que c'est un suicide ou est-ce que c'est une automutilation? Ce serait un suicide si les Occidentaux étaient sérieux. Mais il y a aussi un thème très important, que ce soit de la part d'Erdogan ou de Poutine, c'est que les Occidentaux sont fainéants quand il s'agit de politique étrangère. Donc c'est une automutilation, on se défend militairement et on va peut-être rebondir. Parce que de toute façon, les Occidentaux, ils n'aiment pas être dérangés, ils prennent le chemin de moindre résistance, et puis on va s'en sortir une fois qu'on a survécu militairement.
Ziad Majed.
Je suis encore une fois tout à fait d'accord. C'est une question qui se pose de plus en plus. L'absence des Occidentaux, à part les réactions de temps à autre de Trump, mais qui ne forment pas une politique cohérente de la diplomatie américaine, il y a une absence totale des Occidentaux. Les Russes l'avaient bien compris et ils se sont imposés en Syrie à partir de 2015. Les Iraniens l'avaient compris avant, durant leur expansion en Irak, puis en Syrie, évidemment au Liban. Et maintenant, les Turcs le comprennent et depuis la tentative de coup d'État en Turquie même et le sentiment de Erdogan qu'il a été trahi par les Occidentaux, il considère à la fois que la Russie peut être un partenaire, parfois l'Iran, et il est obligé, pour différentes raisons, à les affronter, tout en essayant toujours aussi de trouver des compromis. Donc l'absence des Occidentaux en Turquie et le fait que Sarraj, même s'il est reconnu, même si l'accord de Sriraat au Maroc a été reconnu également, il n'a pas réussi à obtenir le soutien clair. Trump appelle Haftar, et puis le département d'État américain annonce que Sarraj est toujours légitime. L'Union européenne reconnaît Sarraj, mais la France a des relations ambiguës avec Haftar. Il y a l'Italie qui s'oppose à la France, comme on a dit. Donc, les Libyens sentent qu'il faut trouver une voie de secours qui leur permette de se battre, je parle des Libyens pro-Sarraj, face à une absence de la communauté internationale qui n'est pas récente. On l'a vu en Syrie et on continue de la voir avec des centaines de milliers de morts.
Alors, regardons ceux qui, justement, ne sont pas feignants en matière de politique extérieure et qui sont très actifs, justement, dans ce conflit libyen, mais qui pourraient peut-être s'y affronter. En tout cas, on voit qu'ils ont des intérêts, finalement, visiblement assez différents. C'est la Turquie et la Russie. D'abord, regardons ce qu'est la réalité de la présence russe en Libye. Dans les colonnes du Monde, Ghassan Salamé parle de mercenaires qui ont la nationalité russe. Est-ce qu'on sait, là, aujourd'hui, quelle est la réalité de cette présence russe, des liens, effectivement, de ces mercenaires avec le pouvoir, avec le Kremlin, avec Poutine? Et puis, jusqu'où est-ce que, justement, Moscou et Ankara pourraient s'affronter sur ce terrain libyen, puisqu'ils sont quand même, ils défendent des camps différents?
Là, d'abord, je voudrais souligner l'utilité de l'expérience syrienne. Pour moi, c'est une véritable université. C'est-à-dire qu'on apprend énormément sur les dynamiques qui existent entre Moscou et Ankara. Ce qu'on a appris à travers l'expérience syrienne, c'est que si les Syriens meurent en s'entretuant, ce n'est pas très grave, mais ils arrivent, à travers leur chorégraphie très très complexe, ces deux grands États anti-occidentaux, ils arrivent à ne pas s'affronter directement. Donc c'est une espèce d'arrangement, d'entente très sale, avec beaucoup de bavures, mais c'est une entente néanmoins. Ça, je pense que c'est très important et pour le coup, je m'attends à la même chose en Libye. C'est-à-dire que la Russie a toujours veillé à ne pas se faire d'amitié trop exclusive dans le Moyen-Orient. Elle ne veut pas abandonner Erdogan, qui est un allié absolument crucial pour la Russie au niveau de l'énergie, au niveau du fait de pouvoir abîmer l'OTAN, par exemple, et ainsi de suite, pour un maréchal de 76 ans en Libye qui risque de s'effondrer d'une minute à l'autre, l'air de rien. Donc, c'est la réalité des Russes. D'abord, il y a des liens qui existent entre Wagner et le Kremlin, mais ce sont des liens qui ne sont pas un alignement parfait.
Wagner, c'est la société militaire privée russe.
Voilà, et qui souvent,
appartient à un oligarque russe qui est proche de Poutine, a priori.
Qui est proche de Poutine, mais ce n'est pas l'État russe. Donc elle peut se livrer à des comportements qui ne sont pas tout à fait alignés avec les desiderata du Kremlin. Et de toute façon, ce n'est pas grave, puisque le Kremlin nie tout cela en bloc. Donc ça offre une marge de manœuvre pour l'État russe, qui est très précieuse. La réalité en termes d'effectifs, c'est grosso modo, il y a beaucoup de témoignages, en tout, dans toute la Libye, donc en sachant que la majorité de ces mercenaires-là ne sont pas en combat, il y a à peu près 1400-1500. C'est une compagnie qui a déjà participé au combat de Derna en 2018, donc ce n'est pas nouveau. Et dans le front, c'est-à-dire au niveau du front, ils ont surtout un rôle de coordination, mais aussi de snipers, d'utilisation de matériel qui leur est propre, et c'est environ 250-350.
Et le risque de dégradation des relations russo-turques, et je passe la parole à Ziad Majed, nul. Zéro. Oui, vous avez fait zéro de... Non, mais parce que les auditeurs n'ont pas l'image. Vous avez fait zéro.
On l'a vu en Syrie. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il peut y avoir un affrontement, Ankara et Moscou retrouvent les moyens de s'entendre. Chaque État a besoin de l'autre. Les Turcs veulent utiliser parfois la carte russe pour montrer à l'Occident que trahir Ankara aura des conséquences. On peut tout de suite trouver un autre allié. Les Russes utilisent les Turcs pour à la fois affaiblir l'OTAN, mais montrer aussi qu'ils sont capables de mener le jeu régional avec les deux grands acteurs, à savoir la Turquie et l'Iran. Et il y a beaucoup de mercenaires russes en Syrie qui se sont battus à Alep, qui sont présents dans la région de Idlib, avant cela qui ont été également du côté de Palmyre. Donc c'est pas nouveau cette présence militaire mercenaire russe qui est à la fois manipulée par le Kremlin, mais qui à tout moment, le Kremlin peut se désengager en considérant que ne sont pas responsables de cela. C'est probablement le cas en Libye, où il y a d'autres mercenaires aussi mobilisés par les Émirats, à savoir du Soudan, du Tchad et d'autres pays voisins.
Et zéro risque de dégradation des relations russo-turques.
Les deux ont vraiment besoin les uns des autres, donc ils vont éviter l'affrontement. D'ailleurs, une des premières déclarations turques après le vote du Parlement, c'était qu'il y aura un temps de négociation afin de demander aux Russes de retirer au maximum le personnel et le matériel, si jamais ils arrivent à les convaincre, évidemment.
Chaque vendredi, on a un partenariat avec Cartooning for Peace. On prend un caricaturiste de ce réseau de dessinateurs. On choisit un de ses dessins qui est évidemment en lien avec notre sujet du jour. C'est notre bulle cartooning du vendredi.
Il fait le clown.
Mais on a été créé pour faire rire les gens, mon vieux.
Assis.
Qui nous est présenté aujourd'hui par Margot Le Ridon. Bonjour Margot.
Bonjour Florian, bonjour à tous.
Et alors qu'on a parlé, Margot, des rôles de la Turquie, des Émirats Arabes Unis, de la Russie dans ce conflit libyen, le dessin du jour évoque celui de la France.
C'est en effet Emmanuel Macron, surmonté d'un petit drapeau français, qui se trouve au centre de notre vignette du jour. Tiré à quatre épingles dans un costume sombre, il détonne au milieu du champ de bataille sur lequel a choisi de le représenter Million, dessinateur savoyard œuvrant notamment dans la presse régionale. L'air confus, le président français compulse sur notre dessin un gros bouquin jaune vif. La diplomatie pour les nuls. À sa droite, le maréchal Haftar, juché sur un char, lui fait de grands signes de la main. À sa gauche, c'est le chef du gouvernement d'accord national libyen, Fayez al-Sarraj, qui charge une mitraillette. Interrompant la studieuse lecture du président, les deux rivaux s'exaspèrent, dans la même bulle et d'une même voix. « Bon, alors, vous êtes de quel côté ?» Le dessin est daté du 25 avril, 3 semaines après le début de l'offensive de Khalifa Haftar sur Tripoli. Une offensive que la France a mis à l'époque un certain temps à condamner et seulement du bout des lèvres s'attirant les critiques de la communauté internationale. De fait, près de 9 ans après l'opération lancée à l'initiative de Nicolas Sarkozy pour soutenir les rebelles libyens contre Muammar Kadhafi, la position de Paris sur ce dossier est aujourd'hui très ambiguë. Tout en affirmant s'aligner sur la communauté internationale dans sa défense du processus de paix et donc du gouvernement de Fayez al-Sarraj formé sous l'égide de l'ONU, la France apporte également son soutien au maréchal Haftar dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Pragmatisme pour les uns, duplicité pour les autres, cette proximité de Paris avec le seigneur de guerre de l'Est libyen a valu à ce dernier d'être reçu au mois de mai à l'Élysée. Une tentative de médiation, selon la présidence, qui avait accueilli Fayez al-Sarraj quelques jours plus tôt. Mais également de quoi renforcer le discours de ceux qui, comme l'Italie, prêtent à l'offensive de Khalifa Haftar le soutien tacite de la France. Le dossier libyen n'a d'ailleurs cessé d'empoisonner les relations entre Paris et Rome, qui ont connu l'année dernière une grave crise, la France ayant été jusqu'à rappeler son ambassadeur. Et si la déclaration la plus récente du président Macron sur le dossier libyen est un appel à la retenue, il n'est pas certain qu'elle calme les critiques. Car cet appel ne portait pas sur l'offensive du maréchal Haftar qui a repris de plus belle en décembre, mais sur l'envoi de troupes turques pour soutenir Fayez al-Sarraj. Au premier plan du dessin de Million, une pancarte Libye criblée de balles attend d'être ensevelie par le sable. Comme pour rappeler que pendant que les chancelleries s'écharpent, c'est un pays qui n'en finit plus de s'effondrer.
Merci beaucoup Margot Le Ridon donc pour ce dessin qu'on va diffuser tout de suite sur les réseaux sociaux, sur le fil Twitter de Culture Monde. Une réaction peut-être Jalel Archaoui et Ziane Majed sur évidemment le rôle de la France qui doit maintenant nous intéresser. Je vais faire réagir Marc Semon, nos invités, et ensuite je sais que vous avez une question particulière sur ce point. Jalel Archaoui, vous parliez tout à l'heure de feignantise à propos de la diplomatie étrangère des Occidentaux. Est-ce qu'on la retrouve ici du côté d'Emmanuel Macron ou est-ce que c'est plutôt de l'amateurisme finalement?
J'irai un peu plus loin. Je parlerai plus de naïveté et surtout d'une infatuation par rapport aux Émirats Arabes Unis. Je reviens là-dessus, je suis navré, mais je pense notamment à l'initiative d'Angela Merkel à partir de la fin août, qui était très simple, c'était une idée de Hassan Salamé, c'est de dire il y a 2 contrevenants majeurs à l'embargo contre les armes de l'ONU. Il y a la Turquie d'un côté, et il y a les Émirats Arabes de l'autre. Et le volume, c'est grosso modo 3 fois plus du côté émirati. Et la Turquie a dit, l'Allemagne a dit, je sais parler à la Turquie, je vais pouvoir amener Ankara à la table de négociation. Si quelqu'un pouvait m'aider à faire de même du côté émirati, on pourrait avoir une bonne conversation et on pourrait diminuer le volume de violations. Eh bien, la France est l'entité qui s'est chargée de diluer, de subvertir, de faire obstacle aux Allemands. Donc, la conversation...
Comment
en diluant, en disant, ce serait pas mal de parler de l'économie, ce serait pas mal d'inviter plus d'États, ne parlons pas de cela, ne pas reconnaître l'existence de la campagne militaire des Émirats, qui est non seulement volumineuse, grave, mais qui s'intensifie au fur et à mesure du temps. Donc ce rôle diplomatique, il est récent. Je parle du mois de septembre jusqu'au mois de décembre. J'ai parlé aux Allemands, j'ai parlé aux Tunisiens, j'ai parlé aux Égyptiens, j'ai parlé aux Américains, je suis à Washington. C'est vraiment le témoignage unanime de tout le monde. La France s'est chargée de faire en sorte que personne ne vienne critiquer la campagne militaire des Émirats Arabes Unis, qui est tout à fait illégale, tout aussi illégale que celle d'Erdogan. Erdogan, au moins, l'avoue.
Et même plus, mais elle n'a même pas le soutien du droit international, puisque voilà. C'est pas un gouvernement légitime.
Oui. Donc ça, c'est la contribution de la France, et je parlerai de naïveté, parce que l'air de rien... je pense qu'avec ce qui se passe avec la Turquie, avec les Russes, eh bien, moi, j'imagine tout à fait un scénario où la France se retrouve avec rien du tout. Et je ne m'inquiète pas pour les Émirats.
Le fait que les Émirats et même l'Arabie Saoudite depuis des années déjà mènent des contre-révolutions dans une grande partie de la région qui a connu des révolutions et des soulèvements populaires et avec un marketing, avec une campagne médiatique qui montre qu'ils sont en train d'intervenir contre les frères musulmans, contre des islamistes en général, et cela malheureusement passe et a la bénédiction de certains certains acteurs. Dans le cas libyen, la France joue le jeu. Il n'y a pas de critique de la politique des Émirats. Il n'y a pas de critique de la politique de Sisi en Égypte, qui est également engagée dans ce conflit-là.
Auprès d'Haftar. Auprès d'Haftar.
Évidemment,
ah ben, dans pour le les auditeurs, temps, c'est pas
il faut dire temps, avec le maréchal Haftar, il y a ce camp-là. Ouais. Et puis, il y a toutes les questions que la France, de temps à autre, utilise pour justifier sa politique libyenne, c'est-à-dire la question du terrorisme, les frontières, le fait que Haftar était peut-être une garantie, il allait contrôler les frontières dans une région du Sahel qui est assez critique. Du côté libyen, il y a la question des réfugiés, la Libye étant un lieu de passage de réfugiés et de migrants. Donc il y a des questions qui échappent à la logique du conflit même. Pour le moment, c'est une ambiguïté qui est destructive et non pas constructive.
Marc Semo.
Sur la naïveté, j'ai un peu de doute. Parce que, d'une certaine façon, le dossier libyen a été la première initiative majeure d'Emmanuel Macron une fois arrivé à la présidence, avec la conférence de la Celle-Saint-Cloud, où pour la première fois il avait fait venir à Paris tous les deux principaux protagonistes du conflit, Sarraj et Haftar, pour signer une espèce de feuille de route pour arriver...
Qui n'a pas abouti.
Et il y a d'une certaine façon du côté français un lourd passif, parce que quand en 2014 on commence le soutien à Haftar, il y avait une logique. À l'époque, c'était le chaos absolu. C'était l'homme qui affrontait les islamistes. Et dès ce moment-là, il y a eu deux positions en France. Il y a eu celle de la Défense, avec à l'époque Jean-Yves Le Drian, qui était pour Haftar, et celle du ministère des Affaires étrangères, qui était
pour Farage.
Pour Farage à fond, avec Fabius. Voilà. Donc, ensuite, aujourd'hui, Le Drian est aux Affaires étrangères, donc ça simplifie un peu la donne. Mais on garde ces ambiguïtés. Et la vraie question, c'est pourquoi, tout en étant ambigu, on n'arrive pas à faire comme les Russes. Parce que les Russes aussi sont ambigus.
C'est ce que j'entends par manque de naïveté.
Ils soutiennent Haftar, ils ont des rapports avec Sarraj, et d'une certaine façon,
ils sont
des deux côtés, et en passe d'emporter la mise. Donc pourquoi les Français, finalement, avec quelque chose qui, quelque part, pourrait être s'apparenter, n'y arrivent pas?
Parce qu'ils n'arrivent pas à exercer de pression sur ce partenaire qu'ils jugent absolument unique et irréplaçable. Je reparle à nouveau d'Abu Dhabi. Pour eux, c'est une locomotive. Ce sont des acteurs qui sont prêts à dépenser de l'argent, à venir acheter de l'armement.
Ils ne veulent pas se mettre mal avec les Émirats arabes.
Alors que les Russes savent exercer de la pression. Quand les Russes parlent aux Turcs, les Émiratis ne peuvent rien faire. Et donc, il y a une très forte différence entre la France, qui finalement s'avère toute petite par rapport au cynisme russe. Et donc, quand j'entends...
Et par rapport aux Émirats Arabes Unis, c'est ça la mauvaise nouvelle aussi, que vous nous dites.
Oui, les Émirats Arabes Unis se rapprochent de la Russie depuis 2013, d'une manière tout à fait active, tout en sachant les autres activités de la Russie. Donc, c'est pour ça que je parlais de manque de naïveté.
De naïveté, vous voulez dire?
De naïveté, pardon.
Ziad Majed.
Oui, c'est malheureux que l'Europe en général, et la France en particulier, pour beaucoup d'acteurs dans la région, ne compte plus comme un soutien qui offre des garanties. On cherche les Américains et on peut aussi flirter avec les Russes. C'est là où se jouent les questions. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, depuis quelques années, normalisent avec la Russie. Il y a des offres de coopération sécuritaire, il y a des armes. Et en même temps, restent des alliés fidèles aux Américains. Donc, au lieu d'essayer de trouver une diplomatie différente, les Français et les Européens en général, qui sont assez divisés souvent, mais même quand ils essayent ensemble, n'arrivent pas à s'imposer souvent font des faux calculs, sont dans des hésitations, ce qui profite finalement aux Russes et qui peut profiter toujours aux Américains, restant tous les deux les grands acteurs aujourd'hui de ces enjeux.
Jalal Arshaoui, dans ce contexte-là qu'on décrit depuis maintenant une trentaine de minutes, que peut faire l'ONU? Est-ce que c'est peine perdue, c'est raté, et au fond, on va se rapprocher une nouvelle fois du cas syrien, et l'ONU ne peut rien, et c'est l'échec du multilatéralisme, et terminé, finalement, la Syrie aura mis à terre les Nations Unies, et la Libye va complètement enterrer les Nations Unies, ou est-ce qu'elle peut encore prendre l'initiative?
L'image est assez sombre, c'est sûr, mais je pense qu'il y a une petite ouverture, il y a une petite lumière, c'est le fait que, ce que je disais tout à l'heure, et ce que vous avez dit, Siad, c'est que Erdogan a envie de négocier. Et donc, la balle est dans le camp de ceux qui peuvent exercer une pression sur les États qui soutiennent le maréchal Haftar. L'Égypte n'est pas aussi active que ce que l'on imagine. exercer de la, une pression sur la Russie, c'est pas nécessaire parce que la Russie, de toute façon, se soucie vraiment de garder
et
les
liens.
Elle
est de avec... côté, la Russie.
Elle, exactement. Donc, de toute façon, c'est exactement. Pas important pour elle. Donc, il faut pouvoir, à un moment donné, faire ralentir, excusez-moi encore, Abu Dhabi. Il faut qu'à un moment donné, on viole ce tabou, qu'on en parle, qu'on ait cette conversation. Parce que Trump n'est pas choqué par l'intervention des Turcs dans l'Ouest libyen.
J'entends qu'il y a cela, mais il y a aussi un moment où il va falloir mettre les Libyens d'accord. Est-ce qu'un un accord politique entre Farage et Haftar est possible?
Oui.
Oui, il ressemblera à quoi?
Il y a en tout cas, ne soyons pas trop ambitieux. Là, ce qu'il faut, c'est un cessez-le-feu. C'est une cessation des hostilités on n'est jamais parvenu à ce point depuis avril. Ça fait 9 mois avec 15-20 morts par jour quasiment. Donc il faut à un moment donné arrêter la violence d'abord.
Oui, il faut arrêter la violence et il y avait déjà une base à Sriraat au Maroc quand il y a eu l'accord en 2015. Il n'était pas parfait, mais il peut toujours y avoir des compromis en Libye même parce que il y a la fatigue, il y a le fait que sans soutien et sans armes qui viennent de l'étranger, la guerre change totalement d'allure. Donc il peut y avoir toujours des possibilités de trouver une négociation. Les Nations Unies ont tardé. Après 2011-2012, il y a eu énormément d'occasions raté, mais ce n'est pas trop tard. Quant à la crédibilité de l'organisation internationale et de la communauté internationale en général, on est en train de vivre un moment terrible. La crédibilité de ces institutions-là n'est plus là, que ce soit en Syrie. Comme vous avez dit, il y a eu 13 ou 14 vétos maintenant russes qui ont paralysé le Conseil de sécurité. Mais en même temps, il n'y a pas eu de réaction importante par rapport à ce qui se passe depuis des mois. Il y a des dizaines de milliers de Syriens tués ou blessés. Il y a des centaines de milliers qui ont encore une fois été déplacés à Idlib et ailleurs. On ne voit pas, ça ne choque plus, ça ne crée plus au niveau du Conseil de sécurité, au niveau de l'Union européenne. Ça passe, il y a comme une lassitude un peu et une impuissance. Puissance qui permet aux criminels d'aller plus loin encore et qui permet à certains États qui alimentent ces conflits et qui interviennent directement à continuer. La Libye peut être aussi une scène aussi tragique que la Syrie, peut-être elle l'est déjà, le Yémen l'est également, et ça peut continuer malheureusement.
Marc Simon.
D'une certaine façon, la Libye, au niveau de la paralysie du Conseil de sécurité, est quasiment ce qu'il y a de pire. C'est comme la première fois où on a vu la Russie bloquait une résolution contre Haftar, mais les Français dans l'histoire
sont d'accord.
Étaient d'accord. Alors bon, ils n'ont pas été votés explicitement avec les Russes, mais ils étaient quand même plutôt d'accord. Donc c'est du jamais vu, parce que au moins sur la Syrie, l'affrontement est assez clair. Ouais, ouais, ouais. Là, on voit sur la Libye qu'on retrouve effectivement toutes ces ambiguïtés françaises.
Bah moi je voulais en profiter pour dire justement finalement toutes les grandes divisions chiites versus sunnites, sunnites versus sunnites, à la fin des fins c'est du réel politique, c'est du réalisme. Et je pense que ces états-là sont en train d'apprendre, je pense notamment à Erdogan qui est beaucoup plus réaliste aujourd'hui qu'il n'y a 3 ou 4 ans. Et ce sont des gens qui voient les dysfonctionnements des grandes institutions qui sont dans leur majorité occidentales. Et ça, c'est une constante qui revient.
Ils profitent des failles des Occidentaux.
Oui.
Ziad Majed, presque au terme de l'émission.
C'est la même chose par rapport aussi au modèle démocratique, que ce soit au niveau de la gouvernance internationale ou même nationale, qui est en difficulté et qui permet à des États beaucoup plus dans l'autoritarisme de décider plus rapidement, d'intervenir plus rapidement. Et ça pose une question à la fois politique et éthique et juridique sur comment fonctionne aujourd'hui le monde et ses relations internationales. وين يا غايب على عين يا لالالي
Merci beaucoup à tous nos invités. Jalal Harchaoui, je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut néerlandais des relations internationales de La Haye. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui, d'autant que vous avez un peu décalé votre retour à La Haye, donc merci infiniment. Ziad Majed, merci également. Je rappelle que vous êtes auteur notamment de cet ouvrage Dans la tête de Bachar al-Assad qui était paru chez Actes Sud. Un grand merci à Marc Semo également, notre partenaire du Monde. On se quitte avec Hamid El-Shaïri qui était d'origine libyenne, mais qui vit depuis très longtemps maintenant, je crois, du côté du Caire.